Le carré des artistes. Écoutez les talents de notre région pendant une heure avec Sabrina.
Salut tout le monde, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez IDFM Radio 98 FM en Ile-de-France et partout sur notre web radio idfm98.fr. Vendredi 14h, c'est le carré des artistes qui commence. Chaque semaine, je reçois un nouvel artiste du Val d'Oise ou d'Île-de-France. Quel que soit le domaine, l'émission a pour but de mettre en lumière des parcours, mais aussi de partager des vécus et des expériences. Aujourd'hui, l'émission va mettre à l'honneur une personnalité bien connue de notre département, même de notre région, l'Île-de-France, et même, je peux le dire, de France, de notre pays. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Monsieur Adama Camara. Salut.
Salut, ça va?
Ça va, Adama?
Ça va, merci beaucoup pour l'invite.
Bah, avec grand plaisir. Adama, tu es originaire de Garges-lès-Gonesse.
C'est ça.
Tu es un artiste à part entière.
Aussi.
Oui, tu rappes.
Je rappe.
Tu écris.
J'écris.
T'as écrit un livre.
C'est ça.
Autobiographique.
C'est ça.
Numéro 55852. Tu vas nous
exact.
En parler.
Il n'y a pas de souci.
Et tu es très impliqué dans la lutte des RICS interquartiers. Tu œuvres aussi avec l'association SADA. Tu vas nous en parler pour la promotion de la solidarité, entre autres.
C'est ça.
Tu es très, très, très impliqué. Donc, je l'ai dit. Et tu as également créé la série RICS qui est actuellement disponible sur France TV.
Et YouTube.
Donc ça présente des échanges avec des familles qui ont perdu un proche, un enfant, un frère, un papa, et des victimes de RICS.
C'est ça, des témoignages bruts de familles pour nous raconter les dommages collatéraux qui suivent après une RICS, quoi. Donc on a des témoignages de maman qui nous racontent le décès de leur fils, comment ça se passe aujourd'hui aussi à la maison. Des jeunes blessés aussi, parce que les RICS c'est pas que ce qu'on voit... à la télé, genre un tel est mort, derrière c'est toute une famille qui est brisée. Donc on a voulu mettre en lumière, même si le mot lumière n'est pas approprié pour ce sujet, mais on voulait mettre quand même en lumière les conséquences dramatiques.
Et depuis, les médias te sollicitent énormément. Tu travailles également avec certaines municipalités.
Je travaille avec des municipalités, des services jeunesse, tout ce qui est centre pénitentiaire aussi aujourd'hui, PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, collège, lycée. On fait beaucoup de sensibilisation pour aviser les jeunes, leur parler des conséquences dramatiques.
Et donc, toi, tu es là justement pour parler de ça. On va découvrir tout de suite ton parcours. Tu vas nous raconter le drame qui s'est passé dans ta vie et qui, on va dire, a mis le point d'entrée.
Vie, ouais.
Voilà le point d'entrée aussi de tout ce que tu fais aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais quand même annoncer déjà dès le début de cette émission que tu vas rejoindre l'équipe d'IDFM Radio.
C'est ça.
Tu vas être animateur.
C'est aussi la surprise du jour. C'est clair que je vais devenir, entre guillemets, animateur pour parler de sujets, de société. Rester dans la continuité de ce que je fais. Donc, lorsque vous m'avez proposé, on a longuement réfléchi avec notre équipe et on a décidé de rejoindre l'aventure parce que ça nous parle. Il y a les valeurs et on a envie de transmettre un message positif et aussi soutenir, essayer de trouver des solutions ensemble. Donc voilà.
Super, alors avant de présenter cette toute nouvelle émission, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. On va te découvrir, on va découvrir et essayer de comprendre qui est Adama Camara. L'émission elle dure une heure, je sais que c'est très court et on va essayer de couvrir tous les sujets et on va faire pour le mieux. Adama, on va être obligé de traiter du coup un sujet que tu as dû exposer des milliers de fois, que tu as dû rabâcher, répéter. Malheureusement, c'est le point de départ de ton histoire, si je peux dire ça comme ça. Un soir de 2011, ton frère Sada est mort poignardé devant la gare de Garges-Sarcelles.
C'est ça.
À la suite d'une rixe entre jeunes, des jeunes qui connaissaient. Et cet événement a changé ta vie.
La mort brutale d'un proche, forcément, ça bouleverse toute une famille, toute une vie. Donc ce 18 septembre 2011, mon frère Sada se fait poignarder par un de ses amis. Quelques semaines avant, ils se sont battus pour une histoire, comme on dit toujours, les RICS, c'est souvent une histoire futile, banale. Et là, malheureusement, quelques semaines après, ils se sont revus. Ils se sont battus à la gare et ce soir-là, mon petit frère s'est fait poignarder à plusieurs reprises au niveau du thorax. Donc moi, j'apprends cette mauvaise nouvelle à 2h du matin. J'étais chez moi, je vivais plus chez mes parents, j'étais avec une petite amie, donc à 2h du matin on sonne, à notre domicile pour nous dire que Sada est mort, il s'est fait tuer. Bah, quand on apprend le décès d'un proche, au début, on n'y croit pas, parce que je me dis, non, c'est pas possible. Mon petit frère, je l'ai vu ce matin. Et quand j'arrive sur les lieux, bah, je vois un drap blanc qui recouvre le corps de mon frère. Et à partir de ce moment, je me dis, ouais, c'est la réalité. Et là, on bascule dans autre chose, quelque chose qu'on connaît pas, c'est-à-dire la mort. Comme je dis toujours, à l'école, on nous apprend à donner la vie en SVT, mais malheureusement, on n'a pas fait de cours sur la mort, le deuil. Est-ce qu'on a le droit de pleurer? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Parce que nous, on a cette représentation d'un homme, c'est un homme, ça pleure pas. C'est les filles qui pleurent. C'est comme ça qu'on grandit. Et on grandit aussi dans un esprit où on parle pas. Même quand on va mal, on garde tout pour nous.
Beaucoup de pudeur.
Et même d'en parler, on sait pas quoi dire. C'est qu'on est blessé de l'intérieur et on souffre.
Oui, et puis toi tu le dis, en plus t'es le grand frère, donc t'as eu un peu tu le racontes dans ton livre, hein, numéro 55-852, où tu racontes ta place de...
C'est clair, c'est la culpabilité, parce qu'on culpabilise aussi en tant que grand frère, parce que quand on est plus jeune, toujours, nos parents nous disent « fais attention à ton petit frère, fais attention à ta petite sœur
oui. ».
Et à ce moment-là, on se dit « ouais, j'ai pas pu protéger mon petit frère ». En tant que grand frère, on se sent un peu responsable. Et ben, alors que c'est pas vrai, hein, mais la plupart, même quand aujourd'hui on regarde la série Rix, même les sœurs qui prennent la parole, elles ont ce sentiment de culpabilité. Parce qu'elles disent, j'ai pas protégé mon frère. Donc moi, pendant des années, cette culpabilité me ronge, me fait du mal jusqu'au jour où je me dis, bon, je vais passer à l'acte pour me sentir mieux.
Et à ce moment-là, voilà, ce désir de vengeance.
Ce désir de vengeance qui me ronge dès le premier soir. Parce qu'on se dit, ouais, c'est pas une mort naturelle, c'est un tel qui a tué notre frère.
Et puis cette vengeance, en fait, toi, tu penses qu'elle va te libérer finalement, et que tu vas être libéré de cette douleur que tu ressens et que tu décris très bien dans ton livre.
C'est ça, on se dit, on va se venger, on va se sentir mieux. Que les personnes vont aussi souffrir comme nous. Donc on s'enfonce dans ces mauvaises idées. Et jusqu'au soir où j'ai décidé de passer à l'acte.
Donc un soir, t'es en voiture, tu vois les six jeunes et tu leur tires dessus.
C'est ça, je vois les grands frères des personnes concernées, parce que je me dis, bon, les personnes qui ont tué mon frère, elles sont en détention.
Oui.
Comment je peux faire pour les atteindre et atteindre leur famille? Je me suis dit, bon, ben, je vais faire comme eux, je vais tuer un des frères. Et de là, je les croise ce soir-là, tout hasard, et je leur tire dessus à plusieurs reprises. Et après, bon, je me fais interpeller, ça allait très vite, 48 heures de garde à vue, j'arrive en prison, et j'ai ce numéro d'écrou, qui porte le nom de mon livre aujourd'hui.
Numéro 55-852.
55-852, donc, quand j'arrive même en détention, je suis même pas soulagé, je me sens toujours pareil, encore plus triste, parce que là, je suis enfermé, et je fais plus de mal à ma famille.
C'est ça. Et puis, tu étais, tout jeune papa.
Ben, c'est ça. J'étais jeune papa, ma fille, elle avait à peine 8 mois. Donc, mais j'étais tellement plongé dans cette tristesse, dans cette envie de vengeance, que même quand je dis une phrase là qui il y a pas longtemps, je dis le matin je portais ma fille et le soir je portais une arme. Et c'est très violent de se dire limite j'étais pas conscient, mais à ce moment-là
t'étais hors de toi.
J'étais hors de moi. C'était pas moi, et je me suis toujours dit que c'était trop profond, et que même d'avoir un enfant et d'avoir une vie de famille, ça pouvait pas cicatriser cette plaie.
Faut que tu apprennes à vivre avec, finalement, et c'est ce que tu décris dans ton livre.
C'est ça, faut apprendre à vivre avec le décès d'un proche. Il faut l'accepter et vivre avec, et ça prend du temps. C'est pas en un claquement de doigts qu'on bascule, qu'on passe à autre chose. Moi, il y a eu tellement d'événements dans ma vie aussi qu'on suivi, que aujourd'hui je peux aller de l'avant, et aussi donner quelques conseils, si je peux dire, à les personnes qui vivent la même situation.
Tu racontes donc dans ton livre ton incarcération, tu racontes, on vit avec toi un peu tous les enchaînements que tu vis, hein, le décès de ton papa,
c'est ça.
Ta maman qui est mal aussi de te voir incarcéré, enfermé, t'as purgé ta peine aujourd'hui, t'as fait tes 8 ans il me semble.
C'est ça, j'ai pris 8 ans, j'ai fait 5 ans et demi en tout, parce qu'après elle est remise de peine,
ouais.
et voilà, après j'ai fait de la semi-liberté aussi, donc voilà.
Donc aujourd'hui tu peux dire que t'es grandi de cette situation, de tout ce que t'as vécu, tu vois les choses autrement.
C'est clair, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai pris beaucoup de recul et de maturité. Et aujourd'hui, si j'avais pas ce sentiment de me dire là, je bascule aussi là dans autre chose, j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Pour moi, je peux pas tenir aller voir des familles qui vivent la même chose. Parce qu'ils vivent dans une situation de ils sont seuls, ils souffrent, et je peux pas aller dans un esprit où je leur dis oui, il faut se venger pour se sentir mieux. Je peux pas me permettre de,
parce
que
c'est pas vrai.
De un, et aujourd'hui, quand il y a des familles ou même des mamans qui me disent souvent, tu sais Adama, moi j'ai envie de tuer la famille de la personne qui a tué mon fils, et aujourd'hui je peux m'asseoir devant ces mamans et leur dire mais ça va pas vous soulager. J'ai vécu la même chose, et que ces mamans-là m'écoutent parce que elles savent ce que j'ai vécu, c'est authentique, c'est une vraie histoire, et de là j'arrive après à ouvrir un dialogue et les orienter aussi beaucoup à aller voir des psychologues, parce que pour moi c'est important.
Il faut être accompagné, en fait.
Il faut être accompagné.
Parce que le deuil, c'est long.
C'est très
long. C'est un long processus. Et moi j'ai vu hein, la série Rix, et il y a une maman qui dit en fait elle aura mal toute sa vie.
C'est clair, et c'est des blessures à vie. Hein. Moi, ma mère aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'elle a perdu son fils. Même si elle pleure moins devant les gens, ou elle pleure pas devant les gens, elle pleure tous les soirs parce qu'elle a perdu son fils, et aujourd'hui elle apprend à vivre avec. Et il est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être accompagné. On va pas avoir de psy parce qu'on le psy a une connotation de fou pour nous. Donc on se dit on n'est pas fou, je vais pas aller voir de psy. Mais comme je dis toujours, et même il y a pas longtemps je parlais avec des psychologues, je leur ai dit il est bien dommage que plus jeune, quand j'étais à l'école, vous nous avez pas présenté votre métier, parce que pour moi c'est important de savoir quel est votre vrai rôle, quel est votre vrai métier. C'est qu'on peut se livrer chez vous, vous êtes des professionnels, vous allez pas nous juger. Et vous allez garder ça pour vous, et voilà quoi.
Et beaucoup de jeunes sont même pas au courant qu'il y a le secret médical, que quand tu racontes une histoire à un professionnel de santé, il ne va pas le répéter. Et écoute, ton émission va aider beaucoup de jeunes dans ce sens-là. Et tu vas traiter beaucoup de sujets. Et on est ravis que tu fasses partie de l'aventure.
Merci
et
pour
la
confiance.
Et on a hâte que tu commences avec plaisir. Alors malheureusement, tu fais beaucoup de choses, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi comme toi qui sont très impliquées dans les quartiers, dans les villes. Et malheureusement, on voit quand même toujours, et encore, hein, là, le Val-d'Oise a été la scène de plusieurs décès encore. Hein. C'est pour le mois de mars, à Garges, il y a eu un jeune qui a été tué, hein, une balle dans la tête.
À Sarcelles aussi.
Oui, à Sarcelles.
Garges,
c'est à la Muette, et Sarcelles, je sais plus où c'était, c'est dommage. Qu'est-ce que toi, tu vois, tu l'as vécu. Qu'est-ce que en voyant ça, qu'est-ce que ça te fait?
Je me dis que malheureusement, il y en aura toujours. Et c'est un constat assez triste de se dire que malheureusement, chaque année, il y aura toujours des morts. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on en tire vraiment les conséquences de ce qui se passe? Est-ce qu'on se pose vraiment les bonnes questions? Hormis se rejeter la faute, je me dis à un moment donné, il faut s'asseoir et se dire stop quoi, stop. Faut qu'on agisse ensemble. Et ce mot-là, il est très important, cette phrase, agir ensemble, parce que moi, je pousse souvent des coups de gueule, je fais des vidéos où je m'exprime, lorsqu'il y a un décès, lorsque il y a des jeunes qui se battent, je fais souvent des vidéos instantanées et je parle de ces sujets-là. Et récemment, j'ai poussé un coup de gueule où j'ai dit à un moment donné, il y a des associations, il y a des personnes qui veulent œuvrer, qui veulent faire les bonnes choses ou proposer des choses aux jeunes.
Et qui ont la légitimité,
qui ont la légitimité, qui sont écoutés, mais ils ont les moyens physiques, ils ont les moyens, voilà, pour agir, mais ils n'ont pas les moyens, voilà, humains, mais ils n'ont pas les moyens financiers. Et j'ai dit, tant qu'on additionne pas les deux, on ne pourra pas, malheureusement, on pourra essayer de faire des choses, mais ça va être très compliqué. Et lorsque j'ai fait cette vidéo, j'ai eu beaucoup de réponses, de messages où on me dit oui, mais c'est pas en offrant un voyage aux jeunes qu'on va calmer les rixes. Et c'est là, je me dis que, à un moment donné, offrons-leur la possibilité d'aller voir ailleurs que dans leur quartier pour essayer de créer un lien. Parce que de se dire, créer un lien avec les jeunes, c'est là pour moi le début de quelque chose. Tant qu'on crée pas ce lien avec les jeunes, avec les parents, avec la police, avec les institutions, avec les élus, les maires et compagnie, on ne pourra malheureusement pas calmer cette situation. Donc moi je suis vraiment pas là pour poursuivre, je suis pas là pour
pointer du doigt.
Voilà, moi je rejette jamais la faute sur personne. Pour moi, je me dis, on
chacun
est tous
a ses responsabilités.
On a tous notre part de responsabilité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et je le répète, ensemble, pour agir réellement sur ce sujet.
Et puis un travail sur le long terme, un travail régulier, et pas une action ponctuelle, faire un match de foot interquartier. Voilà, c'est vraiment, et il y a beaucoup d'associations d'ailleurs sur notre territoire qui œuvrent, oui. Notamment l'association Espoir et Création,
oui.
Dindayadi qui est très qui œuvre aussi. C'est à la base, c'était ça, c'était pour lutter contre les rixes interquartiers. Mais effectivement, en termes de moyens financiers, c'est très compliqué.
Bien sûr. Il y a beaucoup d'associations qui luttent pour sensibiliser les jeunes. Et pour moi, une action, un one shot, comme on appelle, faire un tournoi solidaire, c'est bien beau, c'est bien, c'est parfait. Mais si derrière il n'y a pas de suivi, ça sert à rien. C'est comme un suivi psychologique. Une fois tous les deux mois, ça sert à rien.
Et puis beaucoup de personnes cherchent à comprendre quand il y a des comme ça des morts. Alors c'est vrai que la majorité des gens d'extérieur disent oh, c'est un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants, mais beaucoup en fait de fois ce n'est pas le cas.
Oui.
C'est et tu le dis d'ailleurs dans l'introduction de ton livre,
oui.
Ce sont les grands qui ont légué finalement
bien
les histoires de quartier, on sait jamais d'où c'est parti, on sait même pas voilà, on connaît même pas l'origine de ces guerres entre quartiers. Et toi, qu'est-ce que t'aimerais dire aujourd'hui aux jeunes qui nous écoutent? Qu'est-ce que t'aimerais leur dire?
Ben déjà, pour rebondir à ce que tu viens de dire, qui est très important, j'ai l'impression même aujourd'hui, lorsque on cherche le motif, lorsqu'on dit oui, il est décédé c'est à cause du trafic de stupes, j'ai l'impression que c'est devenu normal. Ah ben c'est pas grave, il avait qu'à pas.
C'est la punition bien faite,
voilà.
Quoi. Limite.
Mais là je me dis qu'il y a quand même un problème, parce que comment on peut valoriser, limite, on dit oui il est mort à cause du trafic de stupes, mais à un moment donné qu'est-ce qu'on fait avant qu'un jeune aille dans le trafic de stupes? Pour moi elle est là la sensibilisation, c'est que verbaliser les jeunes dès le début, de se dire ok, tu veux rentrer dans le trafic de stupes parce que tu veux te faire de l'argent, mais sache qu'il y en a beaucoup qui pensaient faire de l'argent, au final ils se sont endettés, au final ils se sont fait exécuter. Et parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont trop une fascination avec les réseaux sociaux, ils ont une fascination, ils se disent si j'ai une belle voiture, c'est grâce au trafic de stupes. Si je peux avoir une belle nana, c'est parce que je fais de l'argent. Mais n'importe quoi. Il est là le problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je travaille énormément avec des jeunes. Et même il y a pas longtemps, j'étais dans un lycée où je parlais avec des jeunes. Et sur une classe de 20, 15 jeunes me disent, on déteste notre génération. C'est qu'ils me disent, on a grandi trop vite. On n'a pas eu de jeunesse.
Ouais.
Et je me dis, c'est compliqué.
C'est triste.
C'est triste. Et ça va plus loin que le trafic de stupes. Parce que moi, à 13 ans, dans ma tête, je connaissais même pas les stupes, pour être franc.
C'est vrai que...
À 13 ans,
quelle année sans indiscrétion?
88.
Ouais, donc
je vais
comme
avoir
moi.
34 ans.
Ouais.
Tu vois, et à l'époque, nous, on jouait à la balle aux prisonniers. Voilà.
Ouais.
À 13 ans, jamais de ma vie, à 13 ans, je me serais dit que je vais aller être guetteur. Et c'est là que je me dis qu'aujourd'hui, un enfant de 13 ans, il n'est pas constitué comme nous à 13 ans. Nous, on a une jeunesse. Nous, on était fans de foot. On jouait au foot jusqu'à pas d'heure. Les filles et les garçons jouent ensemble. Aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est les filles d'un côté, les garçons d'un autre. Souvent, quand je fais des sensibilisations, je parle de l'amour. Je dis, ouais, vous êtes amoureux? Ah non, moi, il n'y a pas d'amour. Et je me dis, mais attends, j'étais jeune quand même.
Mais c'est aussi la génération, parce que les jeunes, ils sont influencés aussi par la musique.
Ben oui.
C'est aussi la génération de tous ces rappeurs aussi qui ont une responsabilité envers les jeunes.
Bien sûr.
Et qui montrent en fait pas la réalité.
Ben, aujourd'hui, il est vrai que l'importance de la musique dans notre vie, elle est très importante. Parce qu'on a beau dire oui, mais non, mais le rap n'influence pas, ou la musique n'influence pas les personnes. On a tous été influencés par de la musique. Quelqu'un demain, excuse-moi, hein, qui est en séparation, va écouter des musiques qui vont aller dans son sens. Un jeune qui est en recherche d'identité va écouter des rappeurs qui revendiquent le quartier, qui revendiquent une identité. Donc la musique, elle a toujours influencé. Et aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, prennent au pied de la lettre les mots d'un rappeur. ou les mots d'un chanteur. Donc ils vont se dire non mais il fait ça, il roule en RS, voilà, en Audi RS, parce qu'aujourd'hui même quand
on
parle aux jeunes,
en sachant qu'il l'a loué, hein.
Voilà, non mais bien sûr, mais quand on leur dit ça, et même quand souvent je leur dis, mais vous savez les jeunes, ce qu'il y a dans les clips, tout est factice, tout est
bien
faux.
Sûr.
Et ils me disent non, impossible lui. Mais je lui dis mais les gars, il y a une maison de disques derrière, quand même. Il y a quand même des personnes responsables. Parce que je me dis à un moment donné, si on met de la vraie drogue, on met des vraies armes, c'est que je me dis les plus gros, alors les grosses maisons de disques, c'est eux qui financent. Donc qu'est-ce qu'ils en disent ? Ils ont un regard aussi sur
bien
ça.
Sûr.
Donc je me dis c'est on peut taper du doigt les rappeurs, mais derrière les rappeurs il y a aussi les financeurs.
C'est marketing.
Voilà.
Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause ?
Oui,
un
si
sujet très voilà, très très sombre hein, malheureusement, ouais. Mais c'est la réalité. Voilà, c'est pas des sujets légers. On va détendre l'atmosphère avec un Gargeois. Je sais pas si tu connais Boya.
Ouais, je connais.
Et ben on va écouter du Boya, on écoute le titre Dimelo sur le 98 FM.
OK.
J'ai des remords. Quand j'ai senti la foudre, je me suis déconnecté. Mi amor, pour toi je donnerai tout. T'es une fille exemplaire, t'étais mon repère. Envie de mettre les gants, je les enlève quand tu t'en perds. Tu sais, j'ai fait le tour de mes sentiments. Même si j'ai fait partie de ces gens qui mentent. Je voulais que tu m'emmènes, mais je veux rester près de toi. Donne-moi ta main, tu resteras mon premier choix. Amor, et je m'ennuie sans toi. Amor, j'avance plus sans toi. Pardonne-moi, je fais quoi sans toi? Mes rêves sont finis sans toi. Je ne peux pas en rester là. Dis-moi pourquoi tu n'es plus là. Je ne peux pas en rester là. Dis-moi là. Et c'est parfois je cours, dans la nuit je tourne. Je fais tout pour éviter les cafés, j'esquive les genoux. Amor, amor. Toute seule, tu te fais toute seule. Est-ce que j'ai raison de perdre du temps? Moi je veux finir tout seul. Dans ma vie, j'ai trop besoin de toi. Je voulais que tu m'emmènes, mais je veux rester près de toi. Donne-moi ta main, tu resteras mon premier choix. Amor, et je m'ennuie sans toi. Amor, j'avance plus sans toi. Pardonne-moi, je fais quoi sans toi? Mes rêves sont finis sans toi. Je ne peux pas rester là. Dis-moi pourquoi tu n'es plus là. Reste là, dis-moi là. Tu m'as cambriolé, t'as tout laissé là. Je voulais toucher le sommet. Tu nous as chez là. Mais je vais quand même te pardonner. Bébé, dis-moi là. Je t'en prie, mon bébé, dis-moi là. Je t'en prie, mon bébé, dis-moi là. T'en prie, mon bébé, dis-moi là. Amor, et je m'ennuie sans toi. Amor, j'avance plus sans toi. Pardonne-moi, je fais quoi sans toi? Mes rêves sont finis sans toi. Je ne peux pas rester là.
C'était Dimelo de Boya sur IDFM Radio. Vous êtes dans le carré des artistes jusqu'à 15h. Aujourd'hui, on est avec Adama Camara, rappeur, écrivain, actif dans le tissu associatif du Val d'Oise, d'Île-de-France, de France. Tu essayes 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. On va le découvrir. Tu as écrit le livre numéro 55852 qui raconte ton incarcération. Voilà, donc pareil, tu as créé la série Rix.
Oui, c'est
disponible
ça.
Sur YouTube, France TV.
C'est ça.
Voilà.
Sur YouTube et France TV / oui.
Est-ce que et aussi, je le rappelle, tu vas animer une émission sur IDFM Radio qui
c'est
va
ça.
S'appeler Descente de mots MAUX. Alors on va expliquer pourquoi Descente okay. de mots MAUX. Qui sera diffusé, on a dit, tous les vendredis de 18h à 19h sur le 98 FM.
C'est ça.
Adama, on poursuit, donc on a raconté un petit peu voilà ton histoire, le décès de ton frère. Il avait quel âge, ton frère ?
Il avait 18 ans.
Donc voilà, à la fleur de l'âge, comme
c'est
on dit,
ça.
Il avait tout à construire. Voilà,
malheureusement, ça s'arrête brutalement. Et aujourd'hui même, je me dis, avec le recul et même avec... tous les jeunes qui décèdent, je me dis, il est mort vieux limite. Parce que c'est triste hein, de dire ça, parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui décèdent, ils ont entre 13 et 18 ans.
C'est incroyable.
Et je me dis, limite, il a vécu beaucoup plus que certains jeunes. Parce que moi, des fois, quand j'ai des familles qui me contactent et on me donne l'âge d'un enfant qui est mort, 13 ans, je me dis, 13 ans, c'est un bébé, quoi. Et ça, c'est triste.
Donc la cause, c'est ce qu'on disait, en fait, ils grandissent trop vite. Ils ont pas les bons exemples aussi, ils héritent d'histoires, de quartiers qui sont vieilles.
C'est clair.
De plusieurs années.
C'est triste parce que même le constat amer que je fais, c'est que même quand je discute avec énormément de jeunes, des fois il y a des jeunes qui m'ont déjà dit, mais tu sais Adama, même mon père il s'embrouillait avec eux, il se battait avec eux. Et je me dis, de ton père à toi, il y a rien qui a été fait limite, ou comment ça se fait? Ça se poursuit. Les embrouilles, c'est un mauvais héritage. Le livre, je le commence comme ça.
Oui.
Souvent, les parents, ils laissent des maisons, des bijoux. Et dans les quartiers, nous, on a grandi, ils nous laissent des embrouilles et des terrains.
C'est ça.
Comme héritage. Et c'est une réalité parce que aujourd'hui, les jeunes, savent même pas pourquoi ils s'embrouillent, mais historiquement parlant, les deux villes sont en rixe et ça continue. Et donc à un moment donné, je me dis comment on peut faire pour arrêter tout ça, parce que moi j'ai pas la science infuse pour venir dire oui avec ma série ou avec mon livre, je vais révolutionner les choses. Mais j'essaye et je parle même avec des anciens de partout qui me disent c'est bien ce que tu fais, tes prises de position. Et moi je leur dis à chaque fois, mais j'ai besoin de vous aussi.
Oui.
Parce que votre parole est importante, même si vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez fait votre vie, les petits vous connaissent pas, mais votre parole, elle est importante. Et comme je l'ai dit, même en début d'émission, tant qu'on n'agit pas ensemble, ça va être compliqué.
Mais tu vois, tu le dis dans ton livre, tu dis que les grands ont un peu leur part de responsabilité et doivent aller voir ces jeunes pour leur parler, leur dire stop. Et toi, tu l'as fait d'ailleurs avec ton frère et ses potes, t'as été les voir.
Oui.
Et finalement... même s'ils vous disent oui, t'inquiète, il y a rien et tout, mais en fait non, derrière ça continue.
C'est clair.
Et aujourd'hui, c'est quoi ça a été quoi ton déclic pour te dire je vais me battre contre tout ça?
Bah en fait, moi mon déclic, il est venu sur une vidéo lorsque je vois un jeune se faire lyncher par plusieurs, un déchaînement de violence, un jeune au sol, tout seul, qui essaie de se relever, qui retombe. Je vois cette image, je poste un message sur les réseaux pour leur faire comprendre à un moment donné, les embrouilles, ça mène à deux choses, voire trois. Mort, prison, handicap. Et de là, après mon message, j'ai vu que beaucoup se sont sentis concernés, que ce soit des parents qui étaient démunis. Et limite, je vais pas dire que je fais partie des premiers qui ont vraiment pris position, mais j'ai l'impression que si. Parce que pour quelqu'un qui a perdu son frère... qui a voulu venger son frère et aujourd'hui qui prend la parole, malheureusement il y en a pas beaucoup. Et limite on m'a mis là où je voulais pas être, mais à un moment donné je pouvais pas fuir mes responsabilités parce que je me suis dit bon, j'ai posté un message sur les réseaux, j'ai eu énormément de retours, mais moi je me suis dit c'est bien de parler sur les réseaux, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis comme toujours aujourd'hui, c'est bien de parler, aller faire la morale aux jeunes, mais si derrière on n'a rien à leur proposer, autant rester à la maison.
C'est clair.
Parce que ça sert à rien. Et nous, avec le projet Descendre de mots, d'ailleurs, qui
MOTS.
Est MOTS, nous.
Tu vas en parler d'ailleurs, justement.
Et de là, on s'est dit, pourquoi pas ramener les jeunes en studio pour enregistrer un morceau. Pour beaucoup de personnes, beaucoup de personnes vont dire ouais, mais ça sert à rien de les ramener en studio. De toute façon, le rap c'est une musique de sauvage, etc. Et moi, je leur réponds que le rap, on a beau avoir toutes les a priori sur le rap, pour moi, c'est le meilleur outil pédagogique aujourd'hui pour parler avec un jeune.
Oui.
Parce que il y a beaucoup de jeunes fermés qui ne parlent pas, mais quand on leur donne une feuille et un stylo, ils nous écrivent des belles choses. Et voilà, de là, après, on a fait le morceau et de là, on a créé le projet Descente de mots.
Donc toi, tu t'es dit, je vais prendre des jeunes, oui. Je vais leur demander d'écrire.
Oui.
Dans le but d'enregistrer un son ensemble.
C'est
donc
ça.
Des jeunes de cités différentes.
De quartiers différents à Garges. Et volontairement, ce jour-là, lorsqu'on est arrivé au studio, parce qu'ils étaient pas au courant qu'il allait avoir d'autres jeunes, moi, j'ai été dans chaque quartier pour parler aux jeunes, pour leur dire, bon, vous voulez faire un morceau avec moi? Parce que moi, je rappe, ils me connaissent. Oui. Et ils se sont dit, ouais, Adama, bon, on va faire un son avec lui. Et quand on arrive au studio, on est avec plusieurs jeunes. Et à ce moment-là, moi, je les regarde, je sens qu'il y a une tension quand même au studio. Et moi, je leur dis, vous avez carte blanche. Donc du coup, quand je leur dis que vous avez carte blanche, à ce moment-là, les jeunes, ils me regardent. Je leur dis, moi, je vous censure pas volontairement parce que pour moi, les censurer, ça aurait été faire quelque chose de faux.
Oui.
Donc je les ai pris avec leurs identités, avec leur manière de parler, leur manière d'être. Je leur ai dit, moi, je fais le refrain par contre. Donc de là, tous les jeunes à tour de rôle passent derrière la cabine, enregistrent des couplets, etc. Et moi, quand je commence le refrain, je dis, embrouille égale prison ou la mort. Tu vois qu'il t'aime vraiment quand le maton ferme la porte. Je défends mon pote et ça même quand il a tort. Pourquoi j'utilise cette phrase-là? Parce que souvent, c'est une réalité. Souvent, les jeunes, ils sont pris par le groupe. Le groupe est plus fort que leur choix. Et souvent, nos potes, ils ont tort. Et malgré qu'ils ont tort, on y va quand même. Parce qu'il y a ce côté fraternel de se dire, ouais, c'est mon frérot, c'est le sang, comme ils disent.
Et pas passer pour une baltringue,
voilà,
entre guillemets.
Et pas passer pour quelqu'un de faible. Donc, on y va quand même. Et quand je termine le refrain, je dis, on a grandi ensemble, on s'entretue, on se trompe d'adversaire. Parce qu'au final, et comme je dis toujours, même en sensibilisation avec les jeunes, c'est que je me dis, malheureusement, on se bat contre qui? Des personnes souvent qui nous ressemblent, qui ont les mêmes problématiques que nous.
Avec qui on a grandi.
Avec qui on a grandi.
Dont les familles se connaissent.
Les familles se connaissent. On n'a rien de plus qu'eux. Ils ont rien de plus que nous. Et de là, lorsqu'on fait le morceau, au début, les jeunes étaient tendus en studio. Mais après, j'ai vu que ça s'est détendu. L'atmosphère s'est détendue. Et j'ai revu le visage d'enfant.
D'enfant.
Parce que quand ils arrivent au studio, on a toujours capuche, casquette, oui. Visage serré, fermé, et je me dis pourquoi tout ça. Mais j'ai grandi aussi pareil, parce que on a cette carapace, on est des gens fermés, on veut inaccessible. Donc on a tellement de souffrance peut-être en nous, parce que souvent il y a des jeunes qui vivent tellement de choses, on ne le sait pas. Donc de montrer à l'extérieur qu'on est quelqu'un de dur, fort. N'est pas vrai souvent, parce que souvent on est blessé, souvent on est faible, mais on veut pas le montrer. Donc de là, après, on a fait le morceau, les jeunes ont demandé un clip, on a fait un clip, et de là elle est partie cette dynamique de descente de mots, MOTS. Pourquoi descente de mots? Parce que descente, c'est ce qu'on fait dans les quartiers quand on va se battre, et nous on a mis mots, MOTS, et tout à l'écrit, voilà.
Super. Donc, t'as eu cette idée, toi, en prison déjà, ou c'était une idée qui a mûri à la sortie de ton incarcération?
Cette idée, elle est sortie, comme je t'ai dit, lorsque j'ai vu la vidéo. En fait,
il faut trouver la solution.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand je suis sorti de prison, je voulais m'occuper de ma famille, ma fille, rattraper le temps perdu, malgré qu'on ne peut pas le rattraper. Et de là, quand j'ai vu cette vidéo, je sais pas.
Tu t'es dit, faut que je fasse quelque chose. Ça peut plus continuer.
Et depuis, je le prends comme une mission parce que je multiplie les actions. Et c'est aussi grâce aux gens, parce que beaucoup m'envoient des messages, beaucoup aujourd'hui m'interpellent dans la rue, me disent « Adama, continue, merci, on a besoin de personnes comme toi ». Et moi, je dis « J'ai besoin de vous, venez avec moi dans l'aventure », parce que on parle de nos enfants. Et il n'y a pas que, comme je le dis toujours, hein, des fois je suis intervenu dans des patelins, comme on dit, où on se dit « Impossible que là-bas, il y a une rixe ». Mais détrompez-vous, il y en a partout.
Partout en France.
Et ça, faut se le dire. C'est pas que dans les quartiers populaires.
Alors moi, j'invite les auditeurs quand même à se procurer le livre numéro 55-852. Toutes les personnes qui veulent connaître l'histoire d'Adama, connaître son parcours, tes réflexions aussi, tes doutes, tes craintes, euh, tout, toute la douleur que t'as subie pendant ces années, on le ressent très bien dans le livre. Tu l'as écrit très simplement, mais ça, moi je te dis, je l'ai lu, bah je te l'ai dit, hein, en deux soirées, c'était fini. J'avais envie de connaître la suite. J'ai envie de connaître encore la suite là. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas nous écrire un autre livre?
Pour l'instant, non, mais je suis sur une bande dessinée avec ma fille.
Super.
On a envie de faire une bande dessinée ensemble parce que elle a vécu aussi l'incarcération. Et je vais montrer du côté enfant comment elle a vécu. Donc avec des images, une bande dessinée, on veut parler de la maison de punition. La prison.
Oui, comme tu l'appelles dans le livre. Ouais.
C'est clair, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui vont voir leur papa au parloir ou même leur maman, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des femmes incarcérées. Et il y a toujours ce côté lorsque l'enfant il commence à comprendre que son papa, il n'est pas au travail, parce que beaucoup disent que je suis au travail. Et à partir de ce moment, on est démunis, on ne sait pas quoi dire à notre enfant parce que on n'est pas formé. Et on doit pas être en prison de toute façon. Et qu'est-ce qu'on doit dire à l'enfant? Et je me suis dit peut-être qu'avec cette bande dessinée, certains parents pourront peut-être
expliquer
et parler aussi un peu plus, je vais pas dire librement, mais au moins expliquer à leur enfant, voilà papa, il a fait une grosse bêtise.
Comme t'as fait avec
voilà,
ta
comme
fille,
je l'ai fait avec ma fille.
T'as décidé de pas lui mentir en fait.
J'ai décidé de pas lui mentir parce que déjà d'être absent, c'était déjà lui avoir fait du mal.
Oui.
Et je me suis dit, je peux pas lui faire plus de mal, donc j'étais obligé de lui dire que oui, j'ai fait une énorme bêtise, que là, je suis à la maison de punition et je suis puni, je ne peux pas sortir. Et voilà quoi, je pense que si je lui avais dit que j'étais au travail, arrivé à un âge, elle aurait compris, elle avait déjà compris, elle m'en aurait voulu, malgré qu'elle m'en voulait déjà d'être enfermée, parce que je le sentais des fois qu'elle m'en voulait beaucoup, et même des fois elle me dit, ouais, tu sais que j'étais beaucoup triste, sans toi, et ça, c'est, elle veut me faire comprendre que oui, t'as déconné, papa.
Ouais. Donc, mais toi, tu le savais
voilà,
déjà.
Je le savais déjà. Ouais. Je le savais déjà.
Ça a été dur pour toi d'écrire ton livre?
D'écrire mon livre, ça a été, il y a des passages très compliqués, mais c'était une thérapie. C'est une thérapie d'écrire un livre, surtout une autobiographie. Et c'est comme si, voilà, j'ai vidé mon chagrin et je l'offre à tout le monde.
Donc, ça t'a aidé dans ton processus de guérison?
Ah oui,
de
dans
guérison.
Mon processus de paix, de guérison et d'aller de l'avant. J'aurais pas pu... pour moi, quand je termine le livre, parce que beaucoup me disent, oui, mais Adama, t'as pas parlé de toutes les actions que tu mènes aujourd'hui dans ton livre. Je leur dis, mais parce que c'est une nouvelle histoire.
Oui.
Là, c'était 10 ans de vie, du décès de mon frère, ce sentiment de culpabilité, le deuil, la vengeance, la prison, la perte de mon père et la sortie. Et je me dis, je suis obligé de fermer une page, fermer le livre pour en réécrire un autre. Donc voilà pourquoi ce livre il s'arrête à ce que je compte faire et pas ce que je fais aujourd'hui. Voilà.
Des rencontres aussi qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui, de te donner quelques pistes, quelques idées, de construire tes projets.
C'est ça. Bah les rencontres, comme je dis toujours dans la vie, les rencontres ne sont pas faites au hasard et c'est des rencontres qui nous redonnent espoir. Et qui nous redirige vers l'amour souvent, parce que quand on est dans la haine, dans le rejet de tout, moi j'étais dans le rejet de la justice, dans le rejet de pas mal de choses, et la première personne qui me tend la main travaille dans la justice, et la deuxième personne c'est le procureur aussi, et sans compter les amis, la famille, tout ça, mais les rencontres ont été déterminantes moi dans ma vie, certaines rencontres qui ont fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis le Adama Kamara qu'on peut voir un peu partout et les combats que je mène, mais c'était fait de rencontres. Si j'avais pas rencontré Mathieu Bidan de Street Press qui m'avait contacté pour faire une interview, on n'aurait pas pu faire la série parce que après on a fait la série. Si j'avais pas rencontré ce procureur qui me dit Monsieur Kamara, beaucoup pensent que vous êtes un menteur, mais moi j'ai envie de croire en vos projets et j'ai mis une peine pour que voilà vous avez quand même commis un acte, vous devez être puni.
Une interview d'ailleurs qui a été diffusée durant ton procès.
Voilà.
Qui t'a aussi servi quand toi t'étais renfermé,
oui,
durant ton
sûr.
Procès, tu le racontes. Hein,
oui.
Tu comprenais pas pourquoi on s'acharnait entre guillemets,
bien
et
sûr.
Pourquoi on te comprenait pas et qu'on te croyait pas. Et finalement, elle t'a servi cette
elle m'a servi cette interview. Ça fait partie des premières thérapies que j'ai pu faire, de parler librement. Pas avec mon surnom, parce que moi de base on m'appelle Sansan. On m'a plus connu sur ce nom-là, mais là ça a été Adama Camara, parce que derrière ce surnom Sansan il y a un homme, et cet homme-là c'est Adama Camara. Donc quand je perds mon frère, c'est ma famille qui est impactée. C'est pour ça que j'ai bien voulu mettre en avant mon nom et mon prénom, pour ne pas se cacher derrière un pseudonyme. C'est ma famille qui a été impactée. Vu que ma famille a été impactée, c'est la famille Camara qui a été impactée. Donc je me suis dit, si je prends la parole, parce qu'on m'a dit, on met Sansan ou Adama Camara. Je dis, non, mettez Adama. Adama Camara. Et
toi en vrai, quoi.
Et voilà, c'est moi en vrai. J'ai parlé à cœur ouvert. Et voilà.
On fait une pause.
Let's go.
Ouais. J'aimerais bien qu'on écoute un de tes titres. Qu'est-ce que tu peux nous proposer?
Rix.
Ouais. Très bien.
Rix, c'est un morceau que, bah, par rapport à la série Rix, et pour moi, ça reflète pas mal de choses, ce qui se passe actuellement dans nos quartiers ou en France.
Très bien. Ben, on écoute Rix d'Adama Camara, de Sansan, du coup.
Adama Camara. Sansan. C'est pareil.
C'est pareil. À tout de suite.
S'embrouille pour rien souvent et ça va gâcher nos vies. Un homme qu'on tue, c'est toute une famille qu'on tue et détruit. Combien sont morts à cause du terrain, du trafic, d'un regard pour rien, pour des ondits ou bien pour une histoire de fille. Eh, on achète des armes comme si on allait s'acheter du pain. Facile à en trouver, donc aujourd'hui c'est facile d'appuyer, de tuer quelqu'un. Personne n'aime perdre, veut arrêter, donc ça dure longtemps les rixes. Coup de marteau, des absents, des assises. Une mère effondrée qui va pleurer toute sa vie. Le père impuissant qui lui rapatrie le corps au pays. Tu pleures ton pote, un frère à qui on a ôté la vie. Même si tu le venges, sache, ça ne fera pas revenir. Non, le quartier pleure, c'est mort à cause des rix. Règlement de compte des morts par milliers. Le quartier endeuillé, des familles détruites. Les conséquences de ces violences sont dramatiques. Nos vies changent quand on est touché de plein fouet par les rix. Le quartier pleure, c'est mort à cause des rix. Règlement de compte des morts par milliers. Le quartier endeuillé, des familles détruites. Les conséquences de ces violences sont dramatiques. Nos vies changent quand on est touché de plein fouet par les rix. Pas de machine arrière quand le coup est parti. Pas de game over, reset, on recommence la partie. J'comprends pourquoi maman n'aime pas qu'on traîne la nuit. Car c'est la nuit que beaucoup ont perdu la vie. Ouais, nos parents disent c'était à vous de nous enterrer. Mais c'est le contraire avec toutes ces guerres de cité, toutes ces descentes, tous ces gamins tués. C'est pas de leur faute car eux nous ont bien éduqués. Mais la rue, les potes, la drogue, la prison nous a changé. Une marche blanche pour rendre hommage aux défunts. Les embrouilles, c'est comme la Ligue des Champions. Match aller-retour, c'est des histoires sans fin. Armée à plusieurs pour des expéditions punitives. Un gars se relève pas, ça finit en préventive. Joue les prolongations aux assises, ouais. Le quartier pleure, c'est mort à cause des rix. Règlement de compte des morts par milliers. Le quartier endeuillé, des familles détruites. Les conséquences de ces violences sont dramatiques. Nos vies changent. On est touché de plein fouet par les rix. Le quartier pleure, c'est mort à cause des rix. Règlement de compte des morts par milliers. Le quartier endeuillé, des familles détruites. Les conséquences de ces violences sont dramatiques. Nos vies changent quand on est touché de plein fouet par les rix.
Vous êtes sur IDFM Radio, on poursuit, on est toujours avec Adama Camara. C'était un titre d'ailleurs d'Adama Camara, Rix, qu'on a pu écouter. Est-ce que tu veux parler de ce morceau?
Ce morceau, en fait, c'est la bande originale de la série Rix. Pourquoi j'ai décidé d'écrire ce morceau? C'est parce que je voulais, en fait, j'ai voulu refléter ce qui se passe à travers 3 minutes sur un morceau. Et je raconte aussi ce que nos parents disent. c'était à vous de nous enterrer, c'est ce que nous disent nos parents.
D'accord.
Et aujourd'hui, c'est le contraire, malheureusement. Ouais. Et voilà, quand on tue une personne, on tue toute sa famille. Donc, je voulais un peu illustrer ce qui se passe. Et d'ailleurs, dans le clip, il y a la plupart des jeunes qui étaient anciennement en RIX. Donc, des jeunes que j'ai suivis dans des centres de mots. Il y a aussi des jeunes qui ont participé à ce clip que j'ai rencontré en PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse. Et lorsque je leur ai proposé de venir à faire leur rôle, parce que dans le clip, on voit des jeunes avec des mortiers, il y a des effets spéciaux, avec des battes de baseball et autres, c'est de jouer leur propre rôle. Et avec le recul, j'ai même des jeunes aujourd'hui qui me disent, quand je vois le clip et tout, c'est vrai que...
C'est abusé,
on se rend pas compte, en fait, des armes qu'on prend, qu'on utilise. Et j'ai voulu faire, voilà, un clip assez assez simple.
Assez réaliste
surtout, qui parle de ce qui se passe vraiment, quoi.
Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé le tournage de la série RIX? Tu as été dans plusieurs villes de France.
C'est ça.
Donc je le rappelle, RIX disponible sur France TV et YouTube, où finalement tu t'entretiens avec des familles,
des proches, des personnes,
des victimes aussi.
Ben la série RIX, en fait, elle est venue par hasard aussi, parce que moi, lorsque je fais ma vidéo avec Street Press, la vidéo elle devient virale.
Oui.
Aujourd'hui, elle a dépassé les 2 millions de vues. Et je m'exprime, voilà, je raconte mon histoire simplement. Et je reçois énormément de messages de toute la France. Et que ce soit de maman, qui me disent, moi aussi, j'ai perdu mon fils. Je vis la même chose. J'ai ce sentiment de vengeance. Et ce sentiment, je suis seul. On est seul face à cette situation. J'ai aussi des jeunes qui me disent, ouais, moi aussi, je suis dans les embrouilles. J'ai envie d'arrêter, mais c'est compliqué. J'ai des sœurs qui m'écrivent, oui, Adama, j'ai perdu mon frère. Je sais pas quoi faire. Et après, je me dis, mais en fait, des Adama Camara, il y en a partout en France. Et de là, un soir, j'étais en semi-liberté. Un soir, je suis rentré, j'arrivais pas à dormir. Et avant de rentrer en semi, j'étais en train de regarder les commentaires. Et de là, quand je suis rentré cette nuit-là, j'ai écrit la série. J'ai écrit le générique de la série. Et je me suis dit, pourquoi pas aller à la rencontre des personnes pour qu'ils puissent aussi s'exprimer. Parce que je peux pas être toujours là à dire, oui, moi j'ai perdu mon frère, voilà, Adama Camara. Et je me suis dit, à un moment donné, comment je peux faire aujourd'hui pour aider et sensibiliser. Donc de là, je me suis dit, mon histoire m'appartient, c'est vrai, mais il y a d'autres histoires aussi à avoir. Et de là, j'ai contacté le média Street Press. Mmh. Je leur ai proposé s'ils étaient partants pour m'accompagner. Ils étaient partants. Et de là, France Télévisions sont rentrés aussi dans la partie pour produire la série, parce que ça a un coût quand même.
Bien sûr.
Et de là, on a été dans les quatre coins de la France. On a été à Grenoble, à Toulouse, à Orléans et aussi en Guyane pour rencontrer des mamans, des frères, des sœurs, des jeunes aussi blessés.
Oui.
Pour nous parler de leur histoire, quoi. Et de là, les tournages, c'est des tournages assez forts parce que c'est des témoignages bruts et c'est à cœur ouvert.
Comment tu t'es préparée, toi, à ça? Parce que moi, déjà, en tant que spectatrice, c'est très, comme tu dis, moi, je te dis, j'ai pleuré, hein. J'ai pas. C'est vraiment difficile. Comment est-ce que, après, toi, t'as fait pour te décharger de tout ça? Parce que t'as pris finalement la tristesse, et même il y a une maman qui te pose même une question et qui te dit, toi, ta mère, elle fait comment?
Oui.
En fait, tu vois qu'ils ont vraiment envie d'échanger, et le fait que tu aies vécu ça, ça les libère un peu plus. Ouais.
Et il est vrai que se préparer, je me suis jamais réellement préparé, parce que, comme je le dis souvent, j'ai l'impression que je suis dans une mission, et que il est vrai qu'il y a des témoignages, tous les témoignages m'ont touché. Même si à la caméra on a l'impression que je reste de marbre, mais je me dis pour que ces familles-là puissent comprendre, ou je puisse aussi les comprendre, il faut pas que je sois aussi dans trop pleurer avec eux. Je pleure avec eux, mais sans mes larmes. Donc je garde toujours cette distance.
Recul, ouais.
J'ai ce recul pour pouvoir leur dire j'ai vécu la chose, je sais ce que vous vivez, et voilà. Et après, je peux leur proposer une solution, de parler déjà. Pour moi, c'est la meilleure thérapie de parler, que ce soit un psychologue ou une personne lambda. Et ces familles-là, toutes les familles qu'on a rencontrées à la fin de chaque tournage, m'ont remercié. m'ont dit merci. Ça faisait un an, on n'a pas parlé.
Parce que même entre elles, en fait, même dans la famille, tout le monde a peur de blesser l'autre. Et tu le dis aussi dans ton livre, en fait.
On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire.
Quel mot utiliser.
Quel mot utiliser. Donc, on arrive aujourd'hui, quand j'arrive, je parle librement de ça. Et je prends aussi de mon expérience personnelle et de celle de ma famille pour pouvoir leur dire, je comprends, mais il faut parler. Parce que ça brise des familles. Donc, les témoignages étaient très durs. Et aussi, on a beaucoup rigolé avec les familles. Faut que les gens l'entendent. Mmh. C'est que ça reste des humains. On reste des humains. Donc, y a des moments où on pleure ensemble, des moments où on rigole ensemble et on mange aussi ensemble. Donc, on arrive, on passe minimum 3-4 jours avec eux. Sauf en Guyane, on a passé 10 jours. Mais même, on arrive, on passe 3-4 jours pour la confiance. Et pour les familles, ça leur fait du bien.
Tu disais qu'il y avait une maman qui voulait pas du tout participer et qu'au final...
Elle. C'est l'épisode de Adjira. De base, oui. Quand on va à Grenoble, moi, je vais que pour parler avec Adjira, la sœur. Et qu'à un moment donné, la maman, lorsque Adjira s'est isolée, la maman me dit, j'ai envie de parler aussi. Et que quand elle parle, elle a dit des mots magnifiques. Oui. Elle a même montré les courriers que son fils lui faisait.
Plus jeune.
Et faut être aussi préparé à ça parce que pour moi c'est l'épisode qui m'a bouleversé le plus parce que j'étais préparé psychologiquement qu'à parler avec Adjira et j'ai la maman et je peux pas dire à la maman non, c'est qu'on prend.
Ouais.
Et voilà quoi.
Et toi en tant que papa, tu t'es mis un peu à la place aussi d'un père qui perd son enfant. Est-ce que c'est plus percutant pour toi?
Bien sûr, parce que même quand je vais dans la chambre de Redouane et on voit le lit de bébé, parce que Redouane malheureusement avait une fille.
Il venait d'avoir
une fille et je me suis mis en tant que père.
C'est violent. Pour une poignée de main en fait.
Pour une poignée de main. Ouais. Ça détruit toute une famille et c'est très très violent. Après il est vrai que après chaque épisode, à chaque fois qu'on tournait, pendant un moment je travaillais pas, j'allais voir un psy aussi pour évacuer parce que je reste une éponge.
Bien sûr, c'est ce que je disais en fait. J'absorbe
beaucoup, mais faut aussi évacuer. Donc j'allais voir tout le temps voir une psychologue pour en parler et voilà. Parce qu'il faut s'armer mentalement, sinon on peut pas faire ce qu'on fait aujourd'hui.
Mais en tout cas, bravo Adama, sincèrement, la force que tu dégages, la détermination de ta voilà, t'as une trentaine d'années, tu vas avoir 34 ans.
Ouais.
Voilà, il y a pas beaucoup de personnes qui, je pense, peut être capable de faire ce que tu fais et en plus avec ton vécu. Mais je pense que c'est ce qui fait ta force aujourd'hui.
C'est ça.
Tu pousses beaucoup de coups de gueule sur les réseaux.
C'est ça.
T'as un compte TikTok, Adama Camara.
C'est ça.
T'es sur Instagram aussi, pareil Adama Camara. Et à chaque fois, énormément de réactions.
Oui.
Donc les gens s'intéressent à tous les sujets que tu traites et une vidéo donc sur la dyslexie pareil qui a suscité beaucoup de réactions.
C'est ça.
Et donc ce sera le sujet de ta toute première émission des centres de mots MAUX.
C'est ça. En fait la dyslexie j'en ai parlé parce que malheureusement ma fille est dyslexique et moi-même je le suis. Mais moi, j'ai été diagnostiqué tellement tard.
Très tard, oui.
Très, très tard. Et j'ai su lire réellement en quatrième. Et lorsque je voyais ma fille galérer, elle en CE2, je la voyais galérer à lire. Je me suis dit, je pense que ma fille est dyslexique.
Ça t'a fait tilt, ouais.
Ça m'a fait tilt. Et elle a été diagnostiquée dyslexie sévère. Et après, j'ai poussé un coup de gueule parce que j'ai dit, en fait, de mon époque à aujourd'hui, il y a énormément de jeunes dyslexiques, mais c'est une galère et un parcours du combattant pour trouver une orthophoniste. Et de là, j'ai fait une vidéo et j'ai reçu énormément de messages, que ce soit de jeunes, de parents qui ont accompagné un enfant dyslexique et d'orthophonistes aussi qui me disent « on aimerait bien prendre tous les jeunes en charge, mais on ne peut pas ». Et à partir de là, vu que vous m'avez proposé
ne spoil pas Adama.
vous m'avez proposé d'animer une émission. Et voilà, j'ai dit oui, pourquoi pas, parce que moi c'est vrai qu'il est vrai que même des fois je faisais des lives où je traite tous les sujets de société et c'est peut-être pour ça qu'on me suit de plus en plus parce que je prends tous les sujets en fait, c'est pas Adama Camara Rix. Moi je suis pas Monsieur Rix, je suis pas le chroniqueur des Rix. Ce que je dis toujours c'est que je reste un citoyen. lambda, comme tout le monde, et j'ai envie de parler de tous les sujets. Pour moi, il n'y a pas de tabou. Lorsqu'on met plus de tabou, c'est à partir de ce moment-là, on pourra peut-être aider des personnes qui vivent la chose. Donc voilà.
Super. Et ben, on a hâte de découvrir tes émissions, les sujets que tu auras sélectionnés. On arrive à la fin de cette émission. T'as vu, ça passe vite. Bon, on a essayé de couvrir tous les sujets. Donc, Adama Camara, allez vous procurer le livre numéro 55852. Comment les auditeurs peuvent le commander, Adama?
Ils peuvent le prendre dans certaines librairies. Il y est dans beaucoup de librairies. Sinon, à la FNAC.
Ouais.
Ils peuvent se rendre à la FNAC ou sur Internet.
Voilà.
Soit sur Amazon, la FNAC. Ils peuvent,
on mettra les liens sur le site internet de la radio.
Ils peuvent commander et acheter le livre.
Sansan, rappeur aussi, hein, avec. Est-ce que tu as des projets
Oui, j'ai enregistré beaucoup de morceaux et je vais les sortir en Kungut là dans pas longtemps.
Super, ben on va te suivre sur les réseaux. Je rappelle les comptes d'Adama. Vous tapez Adama Camara tout simplement, et vous le retrouverez. Voilà, donc si c'est pas déjà fait, allez nous suivre sur Instagram et Facebook, vous tapez IDFM Radio. Vous pouvez également retrouver les vidéos de l'émission Le Carré des Artistes en tapant sur YouTube Le Carré des Artistes, l'émission. N'hésitez pas à réagir, dites-nous ce que vous en avez pensé, voilà, donnez vos retours et puis Adama et moi-même, on pourra lire vos commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité à découvrir. En attendant, restez branchés sur le 98FM. On vous accompagne avec du bon son jusqu'à 17h avant de retrouver les informations proches de chez vous. C'était Sabrina, passez une très belle journée. Salut Adama.
Salut, merci.
C'était le Carré des Artistes avec Sabrina.
La même mentale depuis petit, je suis déter. Je suis pressé comme d'habitude, je me mets tout dire. C'est la galère, mais grâce à Dieu, on s'en sort. Zéro confiance, un aveu qui sont sincères. Rapide comme Saka, recueille tout ce cas. Je vois la vie, toutes les couleurs comme elle finit. Tu viens douter qui écoute ma béquille. Transactions organisées comme le AK. Depuis, j'apprête toujours avec les mêmes. On a mûri poteau, on est plus des mots. Tous ceux qui veulent tester un barrage, les dames. Je fous dans le tas et je ressors un thème. T'en fais les frères, elle t'est des frères. À ma place, je sais pas ce que tu ferais. Je suis trop déterminé. C'est difficile mais on s'y fait. On peut plus oublier. Pas trop parler, plutôt agir. Je suis trop déterminé. C'est difficile mais on s'y fait. On peut plus oublier. Grandis dans la zone. Qui reviennent pour nous gratter des jets, c'est la même chaque jour. On gère, même si c'est chaud. Faut pas que tu serres la vague à 16h. Une chance à saisir, un brise-vite, une équipe, faut faire des sous-airs. J'ai KMS et Cousco à la sécu. Faut gérer tout sauf quand tu te fais ses cours. Et parfois c'est cuit, et parfois c'est cool. Faut les épater, retiens pas tes coups. Tout en or, je suis en full black. Coup de béquille dans la tête, tu fais moins de mal. Trop barreau dans la tête avec un âge. Et tu connais de ça quand j'ai le bagage. Ici c'est la tour, c'est pas les favelas. Je calcule pas les folas. On vit que bon genre A. Face à mon œuf, je cale le vigile. Nous filage, mais tranquille, on s'échappe. Comme d'hab, c'est Nino qui prend le volant de la chop. Mate la trix de Belguerre, tu veux pas le voir sous Jack. T'inquiète, plavon, j'appelle les humains. Je vais monter tout seul, me tends pas la main. Pas trop parler, plutôt agir. Je suis trop déterminé. C'est difficile, mais on s'y fait. On peut plus oublier. Pas trop parler, plutôt agir. Je suis trop déterminé.